France Musique.
Francesco Romano à la flûte, Amandine Beyer violon, Baldomero, Barcella, viol de gambe, Anna Fontana clavecin. C'était le final de la sonate en trio en sol majeur de peut-être Johann Sebastian Bach ou peut-être de son fils Carl-Philippe Emmanuel. Bonjour David Christoffel.
Bonjour Philippe.
Donc ça fait partie des œuvres que vous citez dans votre livre Les petits malins de la grande musique, dans un chapitre consacré aux apocryphes, aux œuvres à l'authenticité douteuse. Peut-être avant de rentrer dans le cœur de ce livre, de ces 14 chapitres, une explication du titre, Les petits malins de la grande musique, entre petits, grands, malins, expliquez-nous.
C'est vrai que les perdants de la grande musique, ça aurait pas été très agréable pour eux.
Et puis c'est surtout, pas très vendeur, c'est ça?
Surtout qu'on les aime quand même, et puis ils sont pas forcément complètement perdus. Non, les petits malins, c'est une façon de dire qu'il y a de la ruse en cours dans la réception, et que quand on atteint quelqu'un, quand on entend un compositeur qui s'est frayé un chemin sans être la figure du grand génie et tout ça, on l'entend avec une oreille, avec un plaisir qui sont des plaisirs vraiment pleins. Et effectivement, quand on vient d'entendre cette pièce sans être tout à fait sûr qu'elle est du cantor des cantors, ça met un parfum à l'écoute qui est particulier et qui vaut d'être vécu pour tel. C'est ça que j'essaye de dire.
Et ce qui voudrait dire, David Christoffel, que le fait d'accoler un nom à une œuvre a déjà une incidence, prépare peut-être notre écoute, dispose peut-être notre cerveau dans une écoute particulière, une attention particulière.
Je pense que le vrai effet Mozart est là, c'est-à-dire que c'est d'abord un effet d'autorité.
C'est ça.
Reste, quand Mozart lui-même se met à emprunter des partitions de Jean-Christian Bach, il y a débat à savoir si c'est déjà ou pas complètement du Mozart et à quel moment est-ce qu'on entre dans le style. Et là, on tombe philosophiquement dans des arguments sorites où on ne sait pas à quel cursus mettre le début d'un style, et dès qu'on commence à débattre du curseur, on s'attaque quand même aussi à la question de la consistance de ce qui fait style. Et en effet, le poids du nom du compositeur sur l'écoute est attesté.
Et David Christoffel, vous abordez, me semble-t-il, dans ce livre, vous arpentez un peu les marges aussi de la musique avec tout un début consacré. Alors, si je lis le titre des premiers chapitres, il y a les imposteurs, il y a les pasticheurs, il y a les apocryphes, après, il y a les fantômes, il y a les musiques calculées. C'est pas du tout une grande histoire de la musique classique, mais c'est plutôt une histoire par des chemins de traverse.
C'est presque les poubelles des têtes de gondole.
C'est-à-dire, oui, c'était pas terrible comme titre, en effet. Il vaut mieux avoir
une idée de rudologie musicale, enfin de chercher. En tout cas, ce qui fait rebut pour certains qui se mettent au centre de la grande musique. En fait, j'étais parti en inversant le slogan d'une firme de disques qui vendait des compilations qui s'intitulait « J'aime pas le classique, mais ça j'aime bien ». Et l'esprit du livre est d'inverser, c'est-à-dire « J'aime le classique, mais ça j'aime pas ». Comment se fait-il que des gens qui aiment la musique classique ont des espèces de rebuts et mettent en marge de l'hypergenre un certain nombre d'œuvres. Et donc c'est d'aller enquêter sur ces œuvres-là pour se dire que sans doute en effet elles ont une saveur particulière qui est pas forcément, à un moment je dis que le plaisir de l'ersatz n'est pas empêché par l'ersatz de plaisir ou quelque chose comme ça.
Thank you.
C'était Salle Pleyel en 1934, un extrait du final du concerto pour violon dit Adélaïde de Mozart, Mozart entre guillemets, avec Yehudi Menuhin au violon, l'Orchestre Symphonique de Paris, dirigé par Pierre Monteux. David Christoffel, je dis entre guillemets évidemment concerto de Mozart, parce qu'on sait que c'est un concerto apocryphe, qu'il est donc de la main de Marius, hein, c'est ça, Casadesus.
Oui, enfin, on l'a su tardivement, oui. Parce qu'en fait, quand il l'a fait entendre un soir de Noël à ses amis, il se trouve que ses amis ont pensé que c'était de Mozart et il n'a pas eu le goût de les désavouer.
Oui, les décevoir.
Voilà, de décevoir l'effet d'attribution, ça devait l'amuser un petit peu.
Oui, oui.
Et en fait, il a eu le goût de le désavouer seulement quand il a vu paraître un disque de Pathé Marconi où il y avait le nom de Menuhin, il y avait le nom des interprètes et où il y avait la captation des droits d'interprétation qui était mise en débat au tribunal. Et là, il s'est dit, bah, quand même, il faut que je dise ce qui s'est véritablement passé. En fait, il était membre d'une société qui défendait la musique ancienne et puis
c'est ça,
dit,
voilà,
bon,
ouais.
on va compléter le répertoire du XVIIIe siècle, pourquoi pas. Mais ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est de bien voir que la différence entre ce qui serait un canular et une contrefaçon n'est jamais que dans le discours d'accompagnement, n'est pas tellement dans le geste musical que ça représente. Donc c'est intéressant de voir comme les jeux de snobisme des salons aboutissent à des faux dont la faute est presque peut-être plus aux amis de Marius Casadesus qu'à Marius Casadesus lui-même.
Est-ce que ça veut dire que parfois on biaise un peu son écoute parce qu'on a envie d'entendre quelque chose de particulier ?
Ça s'appelle le snobisme, je crois, et qui d'ailleurs permet à de grandes œuvres de pouvoir exister,
ouais.
Parce que si on les écoutait de façon totalement anonyme, alors ça ne marcherait pas.
David Christoffel, est-ce que ça veut dire que tout votre ouvrage et toute cette réflexion porte vraiment sur la réception de la musique à travers les époques, parce que vous brassez vraiment un répertoire assez large. Est-ce que c'est la façon dont cette réception est motivée ? Quels sont les facteurs qui motivent la réception d'une œuvre de musique ?
Oui, parce que finalement, tout ce qu'on est en train de raconter sur les effets d'étiquette que peuvent avoir les noms de grands compositeurs sont tellement robustes que parfois on n'arrive plus à s'orienter. Moi, je fais régulièrement un blind test avec des étudiants des grands conservatoires en faisant entendre une pièce de Chopin produite par algorithme par David Kopp mais jouée par un humain et une vraie mazurka de Chopin jouée par un humain. Bon, je fais exprès qu'il joue un peu moins bien, mais toujours est-il que ça fait l'affaire et que des étudiants qui sont très formés, hein, qui ont pas loin du bac plus 5 en musicologie ou en musique se trompent.
Désigne la pièce artificielle. Ouais, d'accord.
Exactement. Et donc ça pose aussi la question de à quoi sert la musicologie si l'occupation principale de la musicologie est d'authentifier des partitions pour des raisons peut-être marchandes à l'arrivée. C'est pas forcément le plus excitant qu'on puisse attendre, alors que la musicologie elle peut s'employer, comme j'essaye de le faire, à essayer de voir qu'est-ce qui pèse sur notre écoute quand on écoute de la musique et comment est-ce que ces poids-là peuvent aussi être intéressants, au-delà de les questionner, de jouer avec quand on produit de la musique.
Mmh. Et pour mener à bien votre réflexion, David Christoffel, vous avez pour cela embrassé un très large répertoire à la fois musical mais aussi de connaissances qui va de Jacques Lacan à Patrick Topalov et Sim, c'est assez fortiche quand même.
C'est ouvert. C'est effectivement aussi, derrière le recueil d'anecdotes, une espèce de brûlot contre l'opposition entre des références majeures et des références mineures. C'est pas un hasard si le titre repose sur le chiasme entre petits et grands, quand même.
Oui, c'est ça. Patrick Topalov, si, mais il y a aussi les quatre barbus pour effectivement.
Serge Lama.
Voilà, les œuvres ou les chansons dont on modifie les paroles aussi. Voilà. L'incidence du changement de parole sur la réception également d'une œuvre ou d'une chanson.
Ou même de l'ajout de paroles.
Oui.
Quand Pauline Viardot se met à chanter sur les mazurkas de Chopin, jusqu'à lui voler un peu la vedette. Là aussi, c'est une autre façon d'aimer les mazurkas. Il n'est pas question de chercher une hiérarchie entre les deux.
orchestre placé sous la direction de Roger Blanchard. C'était un extrait d'Algorithme 1 de Pierre Barbeau, une musique composée pour le court-métrage Imprévisible Nouveauté de Frédéric Rossif. David Christoffel, vous évoquez Pierre Barbeau, ce compositeur qui a mis à l'honneur justement la composition assistée par des moyens artificiels, par l'ordinateur par exemple.
Oui, ça a été le premier à lancer ce qu'on appelle la musique algorithmique en France dans les années 60, à la suite des Américains qui avaient fait la Iliac suite. Et ça a donné lieu à un certain nombre de débats. Je me souviens au moment où il y avait eu le premier concert radiodiffusé de musique algorithmique, ça devait être en 1967 sur France Culture, il y avait eu une espèce de tentative d'arbitrage entre les démarches de Pierre Barbeau, de Janine Charbonnier, mais aussi de Michel Philippot et de Yanis Xenakis. Et on se rendait bien compte qu'ils n'étaient pas au même endroit dans la retouche des résultats que l'algorithme donne à la partition et que ça avait donné lieu à un certain nombre de conflits. Ça m'a donné l'occasion aussi de redocumenter les conflits qu'il y avait eu entre Pierre Schaeffer et Yanis Xenakis. D'ailleurs, je remercie Maki Xenakis, la fille du compositeur, et Jacqueline Schaeffer, la veuve de Pierre Schaeffer, de m'avoir permis de publier des extraits de leur correspondance, qui était assez terrible parce qu'on voit bien qu'il peut y avoir des confusions quant à la place de la poésie dans la manipulation de ce que l'on fait produire aux machines. Et sans doute, est-ce que c'est le débat à côté duquel on passe quand on parle de musique algorithmique aujourd'hui, où on s'enferme un peu dans une logique de séparation du vrai et du faux, un peu comme quand on fait du fact-checking. Sauf qu'en musique, je pense que le fact-checking a pas vraiment de pertinence. Il s'agit plutôt de se poser la question, comment est-ce qu'on remet ça dans une expérience esthétique et comment est-ce qu'on réinstancie le beau là-dedans.
Très bien, merci beaucoup David Christoffel. Je vous propose de terminer ce survol de ces petits malins de la grande musique qui vient de paraître aux presses universitaires de France avec un des fils les moins connus de Bach, le fameux Pidicchio Bach, qui est né en 1807 et mort en 1742.
À réécouter sur francemusique.fr.